Et pour l'évangile d'aujourd'hui, un des épisodes qui se passe sur une barque, sur un bateau. Dans l'évangile, notamment celui-ci, c'est la pêche miraculeuse racontée par Saint Luc au début de la vie publique du Christ. Nous voyons, j'abrège un petit peu, là, parce que j'ai déjà étalé un peu trop préalablement, la barque, vous comprenez bien, représente l'Église. Intentionnellement, l'évangéliste l'a raconté comme ça. Les apôtres, ils n'avaient rien pris pendant la nuit, mais ce n'était pas une catastrophe. La survie de personne n'en dépendait, ce n'était pas une nécessité. Le Christ n'est pas venu... remplir les filets de poissons pour voir au repas de personnes qui auraient été affamées. Si donc il le fait gratuitement comme ça, c'est qu'il y a une autre signification. Et cette autre signification, c'est que la barque représente l'Église qui porte le Christ, et on va y revenir plus loin, alors que les poissons représentent les hommes que prend l'Église, que prend l'Esprit Saint dans le filet de l'Église, alors que la mer de Tibériade en l'occurrence, la mer... évoque, symbolise le cours de la vie des hommes, qui peut être quelquefois mouvementé, qui peut être calme, mais en tout cas c'est notre vie à chacun d'entre nous. Et nous voyons qu'en Saint Matthieu, dans l'évangile de la tempête apaisée, la barque est complètement secoué par la tempête. Ainsi sont nos vies. Nos vies sont quelquefois... malmenées, secouées. Et dans cet épisode, nous voyons que le Christ dort dans la barque. Il est dans la barque, mais il dort. Pour susciter la confiance des apôtres, hommes de peu de foi, qu'ils vont entendre. Et dans notre vie, il faut que nous ayons cette conscience aussi, que même si nous avons l'impression que Dieu dort et ne répond pas à nos appels, malgré tout, il veille et quand il le veut, il peut apaiser la tempête. En Saint Luc, ici, aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, les filets sont miraculeusement remplis de poissons. Et nous voyons une deuxième attitude complémentaire du Christ. Là, il commande. Il commande à Pierre d'aller se carter au large, d'aller pêcher en eau profonde. Il commande, mais il suscite la collaboration de Pierre et des apôtres qui sont présents pour que, à travers leur foi, ils puissent accomplir le miracle qu'il veut accomplir. Il prend les hommes comme collaborateurs. La preuve en est qu'à la fin de ce passage d'évangile, il dit à Pierre: n'aie pas peur. Aujourd'hui, c'est des poissons de mer que tu pêches. Demain, ce sera des hommes que tu prendras dans ton filet. À Saint-Pierre, le Christ dit: avance en eau profonde. C'est ce que je vous invite à faire aussi. C'est ce que l'Église nous invite à faire. C'est-à-dire... approfondi. Qu'est-ce que ça veut dire? Avance en eau profonde. Et l'explication que je vais vous donner n'enlève pas l'historicité. Le Christ a sûrement dit à Pierre, va pêcher ailleurs, va avance un petit peu au large. Mais quand, si l'évangéliste le cite comme ça, c'est parce qu'il y a une autre signification aussi qui nécessite que nous avancions en eau profonde pour la comprendre. Avancer en eau profonde, ça veut dire approfondir, aller plus loin dans la foi et dans la confiance. Et quand le Christ dit à Saint-Pierre, avance en eau profonde, ça veut dire développe, insiste, confie-toi dans la foi, obéis aveuglément. Et nous voyons que Pierre, sur la parole, il le dit d'ailleurs, sur ta parole, bien que nous n'ayons rien trouvé de la nuit, sur ta parole, je vais faire ce que tu dis. Saint-Pierre obéit. S'il obéit, c'est que humblement, il croit déjà, il reconnaît déjà comme un maître celui qui lui ordonne. Sa foi n'est pas encore complète, mais déjà, il entre dans ce mystère de la foi, il fait confiance. Et parce qu'il fait confiance aveuglément, il n'a pas encore vu de choses extraordinaires de la part de cet homme, de ce rabbi, de ce maître qui est avec lui dans la barque, hein, qui lui en impose certainement par sa personnalité, mais qui ne reconnaît que comme un homme. Il croit humblement et sa foi est récompensée par le miracle qui s'ensuit. À un autre moment, nous verrons Thomas, l'apôtre, pas le nôtre, qui, au contraire de Pierre, voudra voir pour croire. Et quand il l'aura vu, il croira en autre chose encore. Non pas en un homme mort et resté, mais il croira en Dieu. Il dira « Mon Seigneur et mon Dieu ». Chose qu'aujourd'hui encore, qu'aujourd'hui, dans cet évangile d'aujourd'hui, Saint-Pierre dit aussi, il appelle, il tombe au genou du Seigneur et il l'appelle « Seigneur ». « Seigneur », c'est le titre que l'on donne à Dieu. Donc, il le reconnaît déjà comme Dieu. Un autre aspect de cet évangile, c'est la multitude, la grande quantité de poissons qui est pêché miraculeusement. Entendons par là la grande quantité d'hommes qui seront inclus dans les filets de l'Église pour être tirés hors de la mer mortelle. Du flux de notre vie. Cette prodigalité de Dieu, on la verra aussi à Cana. À Cana, où dans les multiplications des pains, c'est la profusion que Dieu donne sa grâce. Pas de manière étriquée, juste ce qu'il faut. Non, il donne tout. Il donne tout. Si la présence du Christ dans la barque avec Pierre n'a pas l'air tellement d'impressionner l'apôtre, c'est qu'il ne voit, comme je vous le disais, qu'un rabbi, qu'un maître. Mais quand il voit la manifestation de la prodigalité de Dieu par cette profusion de poissons qu'il pêche, sans s'y attendre, son regard change, son cœur change. Et là, il adore Dieu. Il tombe à ses genoux dans un geste de prosternation, d'adoration. Alors qu'il voyait un homme, maintenant il sent qu'il est en présence de Dieu, comme Thomas, le frère. Elle le fera plus tard. Il a tellement conscience d'être en face de Dieu, et avouez que ça doit être assez Nous, ça fait 2000 ans qu'on entend ces histoires-là. Mais c'était tout nouveau pour eux. Comment ils pouvaient, au-delà de la réflexion, autrement, de la, c'était pas des théologiens au départ, hein, et comment ils pouvaient, devant un homme, une apparence d'homme, qui était dans la barque, qui me dit, comment ils pouvaient comprendre que c'était Dieu? C'est incompréhensible. Sauf si on a reçu l'Esprit Saint. Et ayant reçu l'Esprit Saint déjà, avant même la Pentecôte, il dit, éloigne-toi de moi, Seigneur. Il le prend pour Seigneur, c'est-à-dire pour Dieu. Il dit, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Là, il y a une sorte, je ne sais pas le terme qui est, mais une ambiguïté, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est étonnant. Pierre reconnaît la sainteté divine, la sainteté de Dieu dans celui qui est dans la barque avec lui. Et cette illumination, cette révélation de Dieu, même si elle ne s'exprime pas par un développement théologique, révèle à Saint-Pierre son état de pécheur. Personne ne sait quels étaient les péchés qu'il pouvait faire. Mais la conscience de son état de créature malheureuse, de créature limitée, de créature mortelle. Je ne suis qu'un homme vis-à-vis de celui qui est devant moi. Devant une telle révélation, son attitude, comme la nôtre d'ailleurs, à chaque fois que nous avons une révélation, fut-elle la révélation de la liturgie, si nous la vivons profondément, devant cette révélation, son attitude et notre attitude a quelque chose d'ambivalent. D'une part, il y a une attirance. La personne est subjuguée par le mystère qui se déroule, le mystère dont elle a qu'elle devine, qu'elle entreaperçoit. C'est une véritable révélation. Et elle est subjuguée, elle est attirée, elle voudrait entrer dans ce mystère. C'est ce que nous vivons tous, n'est-ce pas? Vous voyez que cette attirance ira jusqu'à pousser Saint-Pierre, lorsqu'il verra le Christ marcher sur les eaux, il osera momentanément se jeter à l'eau aussi et marcher sur les eaux pour rejoindre au plus vite son Seigneur. Comme quoi, cette attirance-là est sans mesure. Mais d'autre part, malgré ou avec, en même temps que cette assurance, on veut se cacher. Éloigne-toi, car je suis un homme pécheur. Saint-Pierre, certainement, ne souhaitait pas que le Christ s'écarte. Mais c'est une manière de s'exprimer en disant que moi, je m'écarte, moi je me cache à cause de ma petitesse, à cause de mon indignité, à cause de mon état de pécheur. De la même manière qu'Adam et Ève se sont cachés après avoir péché, en reconnaissant leur état de pécheur, ne le confessant pas, mais le reconnaissant, ils se cachent de Dieu, parce qu'ils sentent cette distance infinie qu'il y a entre la sainteté du Saint, la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, et la misère pécheresse de l'homme. Exactement comme Moïse et Élie, qui se trouvant sur le mont Tabor, sur le mont Horeb, réciproquement, se cachent aussi derrière le rocher, ne pouvant pas voir la face de Dieu. Éloigne-toi de moi. C'est une reconnaissance. C'est un mouvement d'adoration en même temps que d'humilité, mais qui, plutôt que d'être une demande d'éloignement de Dieu, est au contraire une reconnaissance de cet éloignement avec un désir de combler, pas grâce à nous, mais par la grâce de celui qui est en face de nous, de combler ce vide pour nous permettre de nous associer, de nous approcher, d'être plus intimement en sa présence. Dans l'Ancien Testament, nous avions Isaïe qui avait une attitude semblable. Des exemples dans l'Ancien Testament, on peut en trouver une multitude, hein. Mais je ne vous cite que celui-là. Isaïe dit, je vois le Seigneur assis sur un trône haut et sublime. Vous ne pouvez pas ne pas voir en même temps l'image qu'on verra à la fin des temps, racontée dans l'Apocalypse de Saint Jean, qu'on va célébrer demain si je ne m'abuse. Je vois le Seigneur assis sur un trône haut et sublime, et la traîne de son manteau, c'est-à-dire sa gloire, remplissant le temple. Et je dis, malheur à moi, je vais mourir. Car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite chez un peuple aux lèvres impures, et le roi, Dieu très haut, Dieu Sabaoth, mes yeux l'ont vu. Je vais mourir, c'est la même signification profonde que « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Je vais mourir, ça ne veut pas dire que Dieu va me détruire, mais ça veut dire que illuminé, ébloui par la gloire divine, si la grâce de Dieu n'est pas là, je disparaîtrai comme les ténèbres disparaissent devant la lumière. Mais nous savons par ailleurs que Dieu ne veut pas notre disparition, donc nous illumine et nous purifie plutôt que de nous détruire. Et pour évoquer encore ce que nous disions sur Moïse tout à l'heure, ce texte de l'Exode, « Tu ne peux voir ma face, dit Dieu à Moïse, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et le Seigneur dit, « Voici une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher. » Et rappelez-vous ce que nous dit saint Paul, que le rocher, c'est le Christ. Donc tenez-vous en Christ. Et tu te tiendras en Christ sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un trou de rocher. Je te cacherai dans la kénose du Christ, et je te protégerai de ma droite pendant que je passerai. Puis je retirerai ma main, et tu verras la traîne de ma gloire, mais ma face, on ne peut la voir. C'est-à-dire, je t'envoie le Christ comme un rocher pour te protéger, et pendant que ma gloire passera, c'est-à-dire pendant que l'Esprit Saint descendra sur toi, je te protégerai avec ma main pour que tu ne vois pas ma face, que tu ne sois pas ébloui, mais que tu oses te présenter devant moi, et ainsi s'établira la communion. Mais ma face elle-même, tu ne peux pas la voir, tu ne peux pas, avec ton esprit, tu ne peux pas intellectuellement, tu ne peux pas comprendre la profondeur de mon être, car je suis invisible, insaisissable, incompréhensible, etc. Mais malgré cette transcendance de Dieu, il y a une communion qui s'opère, il y a par la grâce de Dieu qui cache sa gloire à travers le Christ mort et ressuscité, qui nous permet de deviner, de percevoir ou d'être illuminé par sa présence, et ça qui nous met en communion avec lui et qui nous illumine de sa chaleur et de sa vie qu'il nous communique. À lui soit la gloire, l'honneur et l'adoration dans les siècles et les siècles.
Amen.